Vous écoutez, on lit pour vous.
Comment les lois sur le mariage peuvent contribuer à protéger le droit de chaque fille à l'éducation? Un texte de la rédaction paru le 7 mars 2025 sur le site de l'UNESCO. Chaque fille a le droit à l'éducation. Pourtant, partout dans le monde, la discrimination fondée sur le genre continue de priver des millions de filles de ce droit. Un exemple frappant de pratiques discriminatoires à l'égard des filles est le mariage d'enfants, une pratique qui touche de manière disproportionnée les filles, 19 % d'entre elles et 3 % des garçons étant mariés avant l'âge de 18 ans. Comme le rappelle le Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes et le Comité des droits de l'enfant, le mariage d'enfants, également appelé mariage précoce, est tout mariage dans lequel au moins l'une des parties a moins de 18 ans. Le mariage d'enfants est considéré comme une forme de mariage forcé, étant donné qu'une ou les deux parties n'ont pas exprimé leur consentement libre et éclairé. Pour de nombreuses filles, le mariage marque souvent la fin brutale de leur éducation. Une fois mariées, leurs chances de poursuivre leur scolarité diminuent considérablement. Un pourcentage alarmant de 87 % des adolescentes âgées de 15 à 17 ans, qui sont mariées ou en union libre, ne sont plus scolarisées. Le mariage d'enfants et la grossesse précoce sont étroitement liés. 76 % des grossesses chez les filles de moins de 18 ans ayant lieu dans le cadre du mariage. Ce cycle de mariage et de maternité précoce renforce la dépendance et limite les opportunités, freinant ainsi le potentiel et les perspectives d'avenir des filles. Loi sur le mariage dans le monde. La carte du monde interactive Son Atlas. Grâce à sa veille juridique mondiale sur le droit à l'éducation, a suivi les lois sur le mariage dans le monde, y compris les progrès récents en matière d'augmentation de l'âge du mariage et de suppression des exceptions avant 18 ans. En vertu de l'article 16.2 de la Convention CEDAW, les États doivent veiller à ce que le mariage et les fiançailles d'enfants n'aient aucune validité juridique. Le comité CEDA et le comité des droits de l'enfant appellent tous deux à l'élimination des pratiques préjudiciables. Les deux comités insistent sur la nécessité d'une stratégie globale fondée sur les droits qui intègre des politiques de soutien, des mesures sociales et un engagement politique fort garantissant une véritable responsabilisation à tous les niveaux pour protéger les droits des enfants et mettre fin au mariage précoce. Début 2025, 18 % des pays autorisent encore le mariage avant l'âge de 18 ans pour les filles dans leur législation, tandis que seulement 26 % des pays ont fixé l'âge légal à 18 ans sans exception. Les 54 % restants autorisent le mariage à 18 ans, mais acceptent des exceptions, exigeant souvent le consentement des parents ou du juge, parfois sans âge minimum absolu. Une analyse plus approfondie des données de Son Atlas révèle que parmi les pays autorisant des exceptions, 65 % ont fixé un âge minimum absolu en dessous duquel le mariage est strictement interdit. Cependant, dans certains cas, ce minimum est très bas. L'âge minimum absolu le plus courant est de 16 ans, 75 %, mais dans certains pays, il est fixé à seulement 13 ans. Depuis 2019, les gouvernements du monde entier ont pris des mesures pour interdire explicitement le mariage des enfants, sans exception, marquant ainsi un engagement croissant en faveur de l'égalité des sexes et de l'éducation. 14 pays ont modifié leur législation sur le mariage pour fixer l'âge minimum légal à 18 ans, sans exception. Progrès vers la fin du mariage des enfants. Au cours des deux dernières années, des réformes notables ont été entreprises, notamment au Belize en 2024, la loi sur le mariage a été modifiée pour porter l'âge légal du mariage de 16 à 18 ans, sans exception. En Colombie, en 2025, une disposition du Code civil a été abrogée. Elle autorisait auparavant les mineurs de plus de 14 ans à se marier avec le consentement parental ou d'un juge. Sierra Leone, en 2024, la loi sur l'interdiction du mariage des enfants a été adoptée. Elle élimine toutes les exceptions qui permettaient auparavant le mariage avant l'âge de 18 ans. Bulgarie, en 2023, les dispositions légales qui autorisaient des exceptions au mariage pour les mineurs dès l'âge de 16 ans ont été abrogées. Zambie, en 2023, l'âge légal du mariage est fixé à 21 ans. Auparavant, des exceptions permettaient le mariage à partir de 16 ans avec le consentement des parents et avant avec le consentement du juge. Cependant, avec l'adoption de la loi de 2023 portant modification de la loi sur le mariage, ces exceptions ont été restreintes, fixant l'âge minimum absolu à 18 ans. Cette tendance positive se poursuit, plusieurs pays suivant la même voie et procédant actuellement à la modification de leur loi pour progresser vers la fin du mariage des enfants. Bhoutan, 2024, un nouveau projet de loi modificative sur le mariage a été adopté par l'Assemblée nationale et est actuellement examiné par le Conseil national visant à aligner l'âge légal du mariage pour les garçons et les filles à 18 ans. Afrique du Sud. Le projet de loi sur le mariage de décembre 2023 a fait l'objet de débats au cours de l'année dernière. L'un des amendements proposés vise à relever l'âge légal du mariage à 18 ans, sans exception. Au Maroc, à l'issue d'un processus de consultation de 2 ans, les discussions sur le droit de la famille incluent une proposition visant à fixer un âge minimum absolu de 17 ans pour le mariage, alors qu'il n'en existe actuellement aucun. Les lois sur le mariage, un outil puissant pour protéger l'éducation des filles. Alors que de nombreux pays vont dans la bonne direction, certains revers menacent les progrès accomplis. Dans quelques pays, des discussions législatives sont en cours ou des décisions ont déjà été prises pour abaisser l'âge légal du mariage, exposant encore plus de filles au risque d'être retirées de l'école et de se voir refuser leur avenir. Les preuves sont claires. Le renforcement des lois sur le mariage est un outil puissant pour protéger l'éducation des filles. Les gouvernements doivent prendre des mesures décisives pour combler les lacunes, faire respecter un âge minimum absolu de 18 ans pour le mariage et garantir que chaque fille a le droit d'apprendre, de grandir et de s'épanouir sans être soumise aux contraintes du mariage précoce. C'était « Comment les lois sur le mariage peuvent contribuer à protéger le droit de chaque fille à l'éducation. » Un texte de la rédaction paru le 7 mars 2025 sur le site de l'UNESCO.
La fin a toujours été proche. Un texte de Jean-Philippe Barry-Guerrard paru le 9 mars 2025 dans la presse. Vous avez l'impression que le monde va si mal que vous vivez la pire époque de l'histoire. La réalité est peut-être plus nuancée que vous ne le croyez, suggère notre collaborateur Jean-Philippe Barry-Guerrard dans cette carte blanche. Je gagne ma vie partiellement en faisant du doublage et de la voix de pub. C'est pas mal comme gagne-pain, ça paie bien et c'est assez le fun. L'autre jour, en parlant de ça, dans un souper avec des amis, j'ai glissé. Mais bon, on peut s'attacher à rien. Si ça se trouve, dans 2 ans, tout ça, c'est fini. Mon intervention a provoqué un petit soupir d'approbation entendu, puis quelqu'un a dit « Ouais, dans le fond, je sais pas pourquoi on continue notre quotidien comme si de rien n'était, sachant qu'on va probablement tous être morts dans 2 ans. » L'atmosphère s'est assombrie à table. Je me suis senti un petit peu mal de rectifier. Je parlais surtout du fait que l'IA risque d'éliminer ma job. Ce n'était pas un commentaire sur l'état du monde. Le monde va bien, je trouve. Est-ce radical dire quelque chose comme ça? Je soulève la question parce que j'ai remarqué un glissement dans les dernières années, dans les cercles que je fréquente, quand on parle de l'état du monde. On est passé de s'inquiéter pour l'avenir de la planète à carrément considérer comme un fait scientifique que la fin est proche. Un présupposé dont on n'a même plus besoin de parler tellement il fait partie des meubles. Certains de mes amis les plus motivés s'achètent des terres et évaluent la possibilité de devenir autosuffisants en vue d'un effondrement dont la question n'est pas de savoir s'il arrivera, mais quand. C'est un formidable exemple de la théorie du fer à cheval, selon laquelle les franges les plus extrêmes de la gauche et de la droite finissent par se rejoindre. Tous les preppers que je connais sont soit très grano, soit très libertariens. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai commencé à prendre des suppléments de vitamine D cet hiver, mais j'ai du mal à embrasser sans nuance l'idée qu'on vit à la pire époque ou qu'on connaîtra la fin du monde de notre vivant. On peut vouloir un monde meilleur sans prétendre qu'on vit dans le pire des mondes. Pour ce qui est de notre époque d'abord, la quasi-totalité des indicateurs de bien-être sont en constante progression quand on regarde leurs fluctuations depuis les dernières dizaines d'années. L'espérance de vie augmente, la mortalité infantile diminue, l'extrême pauvreté aussi, les revenus médians montent, l'accès à l'eau se démocratise. Les filles vont pas mal plus à l'école que quand j'y allais moi-même. On a pas mal moins de chances de mourir dans un conflit armé au 21e siècle qu'au 20e siècle. La violence armée, même après les anomalies des dernières années, demeure historiquement basse. Ce n'est pas parfait, évidemment. La COVID-19 a causé des soubresauts dans la surmortalité, la lutte contre la faim n'est jamais gagnée et connaît parfois des ressacs. Les inégalités économiques grandissent et on réalise que pas mal de droits qu'on croyait acquis doivent être défendus, mais globalement, ça s'améliore. Maintenant, l'avenir. Oui, c'est raisonnable d'affirmer que beaucoup d'indicateurs sont au rouge et qu'on pourrait se diriger tout droit vers un précipice, mais je trouve ça parfois réducteur. Ça sursimplifie d'abord la réalité, ça présuppose que le monde, ou à tout le moins l'humanité, s'active et se désactive comme une switch on-off. Un ami chercheur qui étudie la question des polycrises en environnement, c'est-à-dire le cumul de crises interconnectées, des changements climatiques aux pandémies, m'a décrit les crises à venir comme des étaux se resserrant sur le monde, plutôt que des bombes détruisant tout sur leur passage. Ce n'est pas rassurant. D'ailleurs, je lui demande régulièrement comment il dort la nuit. Mais ça me donne une sensation de contrôle, de voir l'état du monde comme une série de problèmes à solutionner, plutôt que comme une lente et inexorable marche vers le jour du jugement dernier. Mon principal problème avec le nihilisme ambiant, en fait, c'est qu'il place le croyant au centre du monde. Paniquer à propos de la fin du monde est un exercice narcissique. Ça fait très longtemps que la fin est proche. Depuis le début de l'humanité, en fait. Avant même le déluge décrit dans la Bible, on a recensé des récits semblables dans les civilisations sumériennes et babyloniennes. L'islam, le judaïsme, la chrétienté, l'hindouisme et le bouddhisme ont tous leur version de la fin du monde qui est toujours proche depuis des milliers d'années. La peste noire était le signe annonçant la colère divine et la fin des temps. Au XXe siècle, la peur de la bombe nucléaire a remplacé celle de Dieu. Il y a eu l'an 2000 et le calendrier Maya de 2012 aussi. 2012. Est-ce que des gens y croyaient vraiment ou c'était juste amusant d'en faire un cas pour divertir les masses? Ça fait beaucoup de fin du monde pour une humanité somme toute assez jeune à l'échelle du cosmos. L'univers a 13 milliards d'années. La vie sur Terre en a 4 milliards. Et nous, on aurait la chance de connaître l'infime fenêtre de quelques dizaines d'années pendant lesquelles tout s'effondrerait. Je vais me prendre un 6,49. Je ne dis pas que les chantres du collapse ont tort, mais même une horloge brisée donne la bonne heure deux fois par jour. La vision opposée est peut-être moins glam et nous prive certainement d'une certaine importance. Ça implique d'admettre, pour paraphraser Robert Lepage dans La face cachée de la Lune, qu'on vit à une époque quelconque, sur une planète quelconque, dans un système solaire quelconque, dans une galaxie quelconque, dans un recoin quelconque de l'univers. Voir le monde ainsi fait de nous des figurants dans la marche de l'histoire et nous prive du rôle de témoin de ce quoi vers tout le récit de l'humanité convergeait, cette crise, cette chute, cette fin. Surtout, ça nous force à admettre que la marche de l'histoire pourra continuer sans nous. Ça peut être un deuil un peu humiliant à faire que d'admettre qu'on n'est pas le personnage principal de l'histoire, mais si on est rendu à se torturer sur ce genre de questions, c'est qu'on est probablement rassasié, en santé, reposé, habillé et logé. On devrait être capable de s'en remettre. C'était « La fin a toujours été proche », un texte de Jean-Philippe Barry-Guerrard, paru le 9 mars 2025 dans La Presse.
Le vérifieur de rêves, une chronique de Robert Lévesque, paru le 10 février 2025 dans Les libraires. On a tous plus ou moins un ami secret que l'on garde une vie durant, non pas un ami imaginaire comme s'en font les enfants dans leur chambre, non pas un compagnon de jeu, mais un compagnon de route avec qui on ressent une affinité particulière, partageant avec lui ou elle notre parcours, se reconnaissant des manières d'être, de penser, et si, grand lecteur, j'en compte personnellement quelques-uns, quelques-unes, un seul accède dans mon cœur au statut de frère, et c'est Tchekhov. N'ayant pas eu de frangin dans la vraie vie, je m'en suis fait un grand de ce médecin russe dont la vie est faite de bonté, de mansuétude, de finesse, comme l'ont montré ses biographes, et dont l'œuvre m'est si chère, autant celle de ses nouvelles, dont il fut l'un des plus remarquables artisans, que celle de son théâtre, avec ses 5 grandes pièces, dont chacun des actes pris séparément est en soi un chef-d'œuvre. Il existe chez Gallimard une collection créée par François Sureau qui se nomme « Ma vie avec ». Je vous ai déjà causé d'un des titres, celui que Pauline Dreyfus a consacré à sa vie avec Colette. Moi aussi, je l'aime bien, Colette. Mais de là à passer ma vie avec elle. Aller lui rendre visite, oui, et souvent, mais c'est tout. Tout ceci pour vous dire que je viens de lire dans cette collection un ardent témoignage d'une telle sorte d'amitié secrète que le grand reporter Olivier Weber a partagé avec le poète et voyageur Gérard de Nerval. Dès son enfance, passé dans un internat alsacien avec son frère réel, Olivier Weber a élu le poète des chimères comme un ami de vie. Le lisant en cachette au dortoir, payant parfois de quelques coups de fouet assénés par une religieuse par trop répressive, le jeune Weber se passionna pour cette grande échappée qu'était pour lui la nervalienne poésie de ce fils unique d'un médecin aux armées napoléoniennes, orphelin de mère, arraché à une nourrice et qui connut à peine son père qu'il vit une première fois quand il avait 8 ans, mais chez qui, à ses yeux et à son cœur, ce Nerval lui apparaîtra un frère en rêve, en désir, en chimère, en amours impossibles et ultimement en voyageur, en compagnon de poche pour parcourir le monde. Une phrase de Nerval l'avait à jamais harponné à l'œuvre, à l'homme, au poète malheureux, à l'amoureux déçu. « Je voyage pour vérifier mes rêves ». Olivier Weber, fasciné par l'idée même du voyage, au point de se faire le biographe de Conrad, de Kessel, de Jack London, nous avoue, dans le récit de sa vie avec lui, que c'est l'auteur de « Voyage en Orient » qui est toujours demeuré près de lui, de par toutes les routes. Weber, journaliste, grand reporter, qui sillonne le monde au gré des guerres et des drames humains, a pu, par son métier, cultiver les mêmes chimères géographiques que Nerval. Voleur de rêves et rêveur de vers, il m'a accompagné dans les maquis afghans, sur les rives du Nil, sur les routes de la soie. J'ai plongé dans les souks du Caire en relisant ses carnets de route, écrit-il. Weber, en menant ses reportages, tenait la main tendue par ce prince de la mélancolie dont il dit qu'il était un nostalgique des temps à venir. Phrase si belle qu'elle ouvre la porte à la rêverie totale. Olivier Weber regrette qu'on ait trop longtemps présenté Nerval comme un conteur de la désolation, alors que, selon lui, il est plutôt un prince de la consolation. Weber s'en explique bellement. Partir avec Marco Polo sur les routes de la soie et revenir avec Nerval sur le chemin de soie, s'enivrer du livre des merveilles avec l'un et rêver de l'émerveillement du livre avec l'autre. La poésie nervalienne élève et apaise. Et c'est tout ce que l'on demande à un poète voyageur qui nous emmène soigner nos affres dans des Édens désirés, fussent-ils chimériques. Dans son livre sur Nerval, Olivier Weber ne tente nullement d'expliquer son œuvre, tel un essayiste littéraire ni d'analyser sa fougue poétique, car, écrit-il, le charme de son œuvre s'y noierait. Et de toute façon, ce grand reporter avoue qu'il en serait incapable. Mais ce qu'il fait, et ce qui fait toute la beauté de sa vie passée avec Nerval, c'est qu'il a choisi, métier oblige, de vagabonder dans sa magie onirique. Je n'ai jamais pu supporter qu'on tripote les vers d'un grand poète. J'ajoute qu'il s'agit d'un des plus grands, un voyant né avant Rimbaud. Du point de vue de la sémantique, de l'histoire, de l'archéologie ou de la mythologie, les vers ne s'expliquent pas, écrivait Antonin Artaud à propos de l'auteur des Chimères. Et Weber ajoute finement, et on ne peut qu'être d'accord avec lui, le mystère de la création poétique s'apparente à un vernis qui s'effrite lorsque l'on tente d'en percer les secrets. L'œuvre de Nerval est labyrinthique, mystérieuse et féerique, où le merveilleux repousse les frontières, surtout celles de l'émotion, et ainsi du disciple. Ce que la poésie et la prose de Gérard de Nerval ont appris à celui qui nous raconte, dans cet intense opus « Sa vie avec lui », il le résume en évoquant cet art de la fugue, cette stratégie de la fuite en avant. Sortir par le haut, ruser avec les règles, s'extirper des castes visibles et invisibles, dire non au mépris. Comme Arthur Rimbaud le serait après lui, Gérard de Nerval fut un dérégleur de tous les sens, y compris les siens, lui qui a mené une vie cruelle, une vie d'amour rêvé, de misère, de voyageur, un voyageur allant tragiquement vers le gouffre de l'intérieur, et qu'on fut forcé à plusieurs reprises d'interner dans des maisons de santé, chez celle du docteur Émile Blanche à Passy, où il écrivit ses chefs-d'œuvre de la fin de sa vie, Sylvie, Les filles du feu, le testamentaire Aurélia ou Le rêve et la vie, tout texte illuminé sur les obsessions de la mort et de l'être aimé qui se dérobe, ces quêtes-là mêlées à jamais en lui, cet autre qui ne peut être aimé qu'à distance, telle une idole, ce que furent l'actrice Jenny Colomb et la pianiste Marie Pleyel, qui se marièrent à d'autres que lui, le vérifieur de rêves. C'était Le vérifieur de rêves, une chronique de Robert Lévesque, parue le 10 février 2025 dans les libraires.